le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Tout de suite, les titres de cette émission. La MONUSCO veut soutenir pleinement les opérations des FARDC contre les FDLR. Martin Kobler l'a affirmé mercredi dernier à Kinshasa, mais pour le chef de la MONUSCO, autant la mission onusienne a reçu mandat de combattre les rebelles rwandais des FDLR, autant elle tient au respect des droits de l'homme pendant ces opérations. C'est l'actualité de la semaine, les détails dans ce magazine. La réintégration de 47 479 enfants soldats poserait-elle problème en RDC? L'UNICEF monte au créneau et appelle le gouvernement congolais et les partenaires financiers à se mobiliser afin de réussir ce pari. C'est à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'utilisation des enfants soldats célébrée jeudi dernier. Le chargé de l'UNICEF est notre invité. Il apportera tout l'éclairage sur la problématique de réinsertion des enfants soldats. Enfin, Carlos Araújo s'en va. Le directeur de Radio Okapi quitte la radio, la MONUSCO et la RDC. Vous l'écouterez dans Portrait du magazine des Nations Unies. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et bon dimanche chez vous. Opération militaire annoncée contre les FDLR par les FARDC. Le sujet est revenu au centre de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Qu'en est-il du rôle de la MONUSCO dans ces opérations qui n'ont pas encore réellement commencé? Martin Kobler, invité spécial de cette conférence de presse, a donné des éclaircissements. Honoré Missenga Kalala fait le point.
Deux objectifs se présentent pour la MONUSCO selon Martin Kobler. Le premier est celui de combattre les FDLR et la mission onusienne veut bien soutenir pleinement, insiste-t-il, l'armée congolaise dans cette opération. Le chef de la MONUSCO.
Nous avons tout le même intérêt de combattre les FDLR. Nous avons les moyens, nous avons les hélicoptères d'attaque. Nous pouvons soutenir avec des moyens opérationnels. Nous pouvons soutenir avec les moyens logistiques, mais aussi donner du conseil sur le plan de la stratégie.
Et Kobler de faire un parallélisme entre cette opération et celle de 2013 contre le M23 ou celle en cours depuis une année contre les ADF.
On avait le combat contre les M23. Les FARDC ont combattu contre les ADF pendant un an maintenant. Nous avons vraiment achevé beaucoup ensemble. Nos troupes maintenant au Grand Nord vivent, mangent, combattent dans la forêt vierge ensemble contre les ADF. Nous voulons établir un tel système aussi dans le combat contre les FDLR. C'est le premier objectif.
À cet objectif de combattre les FDLR, la MONUSCO s'attache avec autant d'intérêt à un deuxième, celui du respect de la politique de diligence par rapport aux droits de l'homme. C'est très clair, martèle Martin Kobler, qui insiste sur la nécessité de protéger les civils. Il y a des leçons à tirer des expériences dans un passé récent, explique-t-il.
Nous avons appris la leçon de 2009-2010. Au Umoja Veto, Kimia 2. C'était pour la population une catastrophe humanitaire. Il faut l'éviter. C'est pourquoi nous insistons sur cette politique de diligence d'exclure les risques pour la population. C'est pourquoi, dès le début, j'ai dit c'est une lutte contre les combattants, pas contre la population. Respectons les règles de la politique de diligence sur les droits de l'homme, parce que nous sommes très très conscients qu'est-ce qui se passa en 2009-2010.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Près de 250 entreprises et ONG de Kinshasa sous missionnaires ont suivi pendant une semaine une séance de formation et d'information organisée par l'UNOPS, le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet en RDC. C'était du vendredi 6 au vendredi 13 février à Kinshasa. Qu'est-ce qu'un sous-missionnaire et quels étaient les objectifs de cet atelier? Les réponses dans cet entretien de notre confrère Honoré Missenga Kalala avec le responsable en charge des achats à l'UNOPS à Kinshasa, Madame Madame Oli Raberima Nanyaina.
Madame, l'INOPS a organisé un atelier d'information et de formation pour des soumissionnaires ici à Kinshasa pendant une semaine. D'abord, Madame, qu'est-ce qu'un soumissionnaire?
On appelle soumissionnaire, c'est la société qui soumit des offres auprès de l'organisation. C'est un terme technique dans le cadre de processus d'achat.
Pourquoi l'INOPS a pensé organiser cet atelier à la fois de formation et d'information?
L'INOPS a pensé à organiser cet atelier parce qu'on a fait l'analyse des offres l'année dernière et le pourcentage de la qualité des offres. On s'est rendu compte que l'INOPS a besoin des offres plus de qualité et comment on appuyait ces soumissionnaires pour avoir les offres de qualité, c'est de leur inviter à faire une séance de formation, de leur expliquer comment on fait, quelle est l'importance de soumissionner. C'est pas seulement que je voudrais soumissionner, je fais les tableaux des coûts et on dépose à l'INOPS. Donc, selon l'analyse qu'on a fait toute l'année 2014, on s'est rendu compte que c'est notre devoir de les accompagner, de les apprendre, de les informer comment on donne un travail de qualité. À la fois information, parce que on leur donne des informations dans le changement qui existe à l'INOPS, et de formation dans le cadre d'améliorer leur participation dans la soumission.
Quels étaient les objectifs de cet atelier?
Les objectifs de cet atelier sont d'apprendre les soumissionnaires comment ils s'inscrivent dans l'UNGM. En fait, ils peuvent le faire tout seuls, mais compte tenu du niveau des entreprises, on s'est rendu compte que c'est mieux de les accompagner, de les expliquer qu'est-ce que c'est l'UNGM, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans l'UNGM. La deuxième objectif, c'est de leur accompagner aussi de fournir une soumission de qualité, de leur apprendre quels sont les points très stratégiques dans le document d'avis d'appel d'offres. Et la troisième, c'est le vendor form, d'apprendre les soumissionnaires d'aller s'inscrire à la banque, d'avoir un compte bancaire et de travailler comme toutes les sociétés internationales. Parce que n'oublie pas, à partir qu'ils s'inscrivent dans l'UNGM, ils devraient être un fournisseur international, ils devraient avoir la potentialité des fournisseurs internationaux comme aux États-Unis ou en Europe.
Et madame, UNGM, c'est quoi?
UNGM, c'est United Nations Global Marketplace. C'est un site que le système des Nations Unies a créé, ça fait longtemps, pour gérer les fournisseurs des différentes agences du système des Nations Unies dans le monde entier.
Donc les fournisseurs doivent entrer sur ce site pour s'inscrire?
Exactement. À partir de maintenant, l'UNOPS encourage les fournisseurs ou bien les soumissionnaires de s'inscrire dans ce site UNGM et l'UNOPS ne considère pas une soumission qui n'est pas portée le numéro d'inscription du UNGM.
Quelle est l'adresse de ce site?
L'adresse de ce site, c'est www.ungm.org.
Madame, vous avez également parlé d'un code de bonne conduite des fournisseurs des Nations Unies. C'est quoi le code de bonne conduite?
En fait, le code de bonne conduite, c'est l'éthique des fournisseurs. C'est comme toutes les activités commerciales, il y a des règles et des procédures. Exemple, le fournisseur ne devrait pas faire des fraudes. Dans le code de conduite, il y a le texte qui indique les interdictions en matière de fournisseurs des Nations Unies, ainsi que la sanction et les solutions à prendre. Mais le fournisseur aussi a le droit de demander des explications auprès de l'organisation si c'est nécessaire.
Et vous avez dit également que le fournisseur doit aussi lire attentivement la charte des Nations Unies.
Effectivement, parce que le code de conduite dépend de la charte des Nations Unies. Donc, il y a des éléments très importants qu'ils devraient comprendre. Je pense qu'avant, quand ils ont soumissionné, ils n'ont pas pensé ni à la charte, ni à la code de conduite. Mais je souhaiterais, à partir de maintenant, qu'ils se focalisent sur les comportements et surtout dans la partie éthique des Nations Unies.
Combien d'entreprises ont pris part à cet atelier?
Oui, je suis très étonnée de voir la participation des entreprises parce que on a fait 7 séances et parmi les 7 séances, on a invité 30 participants, mais on s'est rendu compte que les entreprises sont venues nombreux, presque le double même, et il y en a encore qui ont besoin de le faire, mais à partir de Kinshasa, je vais aller en province aussi pour sensibiliser les soumissionnaires des provinces. Mais je suis très contente dans la participation des entreprises, mais on verra les résultats après.
Donc, si je comprends bien, c'est le premier atelier du genre que l'INOPS a organisé.
Selon ma connaissance, parce que je viens d'arriver à Kinshasa, c'est la première formation de ce genre que l'UNOPS a organisée et c'est très important.
Après cet atelier, l'UNOPS pourra faire quoi d'autre?
L'UNOPS va faire l'analyse et l'évaluation de l'impact de cette formation après 3 ou 4 mois et on va tirer les leçons après. Mon dernier mot, c'est de souhaiter les soumissionnaires ou les fournisseurs de RDC d'aller un peu plus loin, d'avoir la potentialité. Quand on est inscrit dans l'UNGM, on devient un fournisseur international et on n'hésite pas d'aller se concurrencer dans la région ou internationalement, pourquoi pas. C'est un défi qui est un peu compliqué, mais on peut le faire et on peut le faire facilement si on fait un bon travail.
C'est ça, aller plus loin.
Oui, aller plus loin dans les autres pays.
Madame, merci.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Ouvrons cette page de brève avec la journée mondiale de la radio célébrée vendredi dernier par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, sous le thème « Jeunesse et radio ». À Kinshasa, le bureau de l'UNESCO a notamment organisé une visite guidée de 2 stations de radio en faveur des étudiants en journalisme et communication de l'Université catholique du Congo et de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Et puis cette autre nouvelle, il y a du changement à la tête du bureau de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, en RDC. Laurent Debock, chef de mission de cet organisme en RDC, est arrivé fin mandat. Il a déjà quitté le pays et jusqu'au 14 février 2015, c'est Madame Monique Van Hoof qui était en charge du bureau. Et à partir de ce dimanche 15 février, M. Hans-Peter Bow assurera l'intérim de chef de mission de l'OIM en RDC jusqu'à l'accréditation du nouveau chef de mission.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous le disions en titre, dans un communiqué, l'UNICEF lance un appel au gouvernement congolais et aux partenaires financiers afin qu'ils investissent les moyens nécessaires pour garantir la réinsertion des enfants issus des forces et groupes armés. C'est à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'utilisation des enfants soldats. Yves Wilmot, chargé de la communication à l'UNICEF RDC, est notre invité. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko. Suivez.
Yves Wilmot, bonjour.
Bonjour.
La communauté universelle célèbre ce jeudi 12 février la journée internationale de lutte contre l'utilisation des enfants soldats. L'année passée, l'UNICEF a fait état de près de 50 000 enfants sortis des forces et groupes armés en République démocratique du Congo. Quelle est l'évolution de la situation?
Tout d'abord, pour être plus précis, l'année dernière, on a pu assister plus de 4 479, pour être exact, enfants associés aux forces et aux groupes armés qui ont pu être sortis de leur situation et accompagnés dans une réinsertion. Le chiffre de 50 000 fait référence au nombre total qui est sorti depuis 2002. Le chiffre de 4 479 est un chiffre relativement stable comparé aux années précédentes. Il y a eu quelques fluctuations, mais il n'y a pas fondamentalement une augmentation ou une diminution pendant les différentes années.
Donc la situation est restée statique, en fait, c'est ça?
Oui, aussi longtemps qu'il le conflit continue. Il est clair qu'il y a des enfants qui se font enrôler en même temps qu'il y a des enfants qui sortent des forces armées et des groupes armés. Et donc dans ce contexte-là, le chiffre est relativement stable d'année en année.
Qu'est-ce qui serait à la base même de ce recrutement d'enfants par les groupes armés?
Vous savez, les enfants sont parfois très attrayants pour des groupes armés pour les enrôler parce que des enfants sont plus faciles à manipuler et à utiliser. Ces enfants-là sont souvent très intéressants pour des hommes armés pour être utilisés en tant que porteurs, en tant que cuisiniers, en tant qu'esclaves sexuels. Et donc dans ce contexte-là, malheureusement, on fait face à des situations de recrutement qui se passent régulièrement.
C'est dans les zones de conflit, si je comprends bien.
En effet, c'est dans les zones de conflit et nous savons d'expérience que les zones dans lesquelles il y a le plus d'enfants utilisés en tant qu'enfants soldats sont les zones dans l'est, le nord, le sud Kivu, la province orientale, entre autres.
Dans un communiqué publié aujourd'hui même, l'UNICEF lance un appel au gouvernement et aux partenaires financiers afin de s'investir dans la réintégration des enfants issus des forces et groupes armés. Cela suppose que la prise en charge pose problème. L'UNICEF et ses partenaires sont-ils à bout de souffle, Yves?
Non, pas du tout, mais je crois qu'il est important de rappeler la responsabilité de tous les acteurs en la matière. Tout d'abord, la responsabilité en tant que gouvernement de mettre en place un programme efficace des mobilisations et des réinsertions des enfants soldats. L'UNICEF est là pour appuyer le gouvernement dans ses activités de démobilisation et de réinsertion. Et nous sommes dans ce contexte-là ravis de pouvoir compter sur le soutien financier de plusieurs bailleurs, plus particulièrement USAID et le gouvernement suédois, et on est en pourparlers pour l'instant au niveau de fonds venant du Japon, des Pays-Bas, entre autres, et du Canada.
La RDC a signé le 4 octobre 2012 un plan d'action de lutte contre le recrutement et l'utilisation d'enfants par ses forces armées et aussi des services de sécurité. Entre-temps, Madame Jeanine Mabunda a été nommée représentante personnel du chef de l'État chargée de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants. Près des 2 ans après, quels sont les progrès qui ont été réalisés dans le domaine des enfants soldats en RDC?
Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'UNICEF, de saluer le gouvernement pour les initiatives qui ont été prises avec ce plan d'action, avec la nomination d'une représentante spéciale. Ce sont des signes très forts qui illustrent la volonté du gouvernement de mettre fin en ce qui concerne l'utilisation d'enfants soldats. Nous constatons qu'au niveau de ce qui se passe à l'intérieur des forces armées et des forces de sécurité, qu'il y a clairement une volonté de mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats. Donc ça, en soi, c'est une excellente évolution. Nous croyons qu'à très très court terme, si les choses évoluent telles qu'elles sont en train d'évoluer, on pourrait en effet parler d'une situation zéro en tant qu'enfant soldat au sein des forces de sécurité.
Quels sont les progrès qui ont été réalisés concrètement et sur le terrain?
Sur le terrain, tout d'abord, ce que je viens de dire, au niveau des forces de sécurité, il y a une claire évolution en termes de l'utilisation des enfants soldats. Et puis, en ce qui concerne les groupes armés, le nombre d'enfants qui sont sortis et qui ont pu être réintégrés, et la prise de conscience également des communautés locales au niveau de l'utilisation et des abus dont sont victimes les enfants qui sont utilisés en tant que soldats est une évolution très positive et nous fait que nous sommes particulièrement confiants pour les années à venir.
Alors, vous avez lancé un appel au gouvernement et aux autres partenaires financiers. Est-ce que vous croyez que l'appel de l'UNICEF sera entendu?
Nous sommes confiants. Tout d'abord, toute la problématique de la mise à fin à l'utilisation d'enfants soldats est une question non seulement de fond, d'abord une question de volonté politique et une volonté gouvernementale. C'est également une question de fond. Aujourd'hui, on a des fonds qui nous permettent d'appuyer des programmes de démobilisation, de réinsertion. Cependant, il nous manque parfois des fonds pour pouvoir aller au niveau de la réinsertion à long terme. Il est important de pouvoir faire une réinsertion complète des enfants sortis des forces et des groupes armés pour éviter qu'ils soient remobilisés. Donc, il faut aller jusqu'au bout de tout le processus de réintégration. Et pour ce processus de long terme, parfois les moyens financiers nous manquent.
Sur le plan technique, comment s'est fait la prise en charge de la sortie des groupes armés à la réinsertion en passant par des centres de transit?
En schématisant un peu, on peut dire qu'il y a 3 grandes étapes. Il y a tout d'abord l'étape de la vérification et de l'identification d'enfants qui sont sortis des groupes armés. Il faut les identifier, savoir d'où ils viennent, qui ils sont.
Et qui fait ce travail-là?
Nous travaillons à ce niveau-là avec plusieurs partenaires locaux, avec des organisations non gouvernementales qui ont une expertise en la matière. Une fois qu'on a identifié et on a véritablement une confirmation quant au statut réel d'ancien enfant soldat, nous réorientons ces enfants vers des centres de transit et d'orientation ou dans des familles d'accueil. Il est clair qu'au niveau de ces centres de transit et d'orientation et des familles d'accueil, il y a 2 choses qui se font fondamentalement. C'est une prise en charge médicale, c'est une prise en charge au niveau psychosocial ou psychologique, alors même qu'en même temps, on est à recherche des familles d'origine, des communautés d'origine. En principe, la prise en charge dans ces centres de familles d'accueil ne dure pas plus que 3 mois au grand maximum. Et pendant cette période-là, on identifie l'origine de l'enfant et donc on arrive grâce à ça à mettre en pratique la 3e étape de notre intervention, c'est le renvoi de l'enfant en question dans sa communauté d'origine, dans sa famille d'origine, où nous sommes attentifs non seulement à accompagner l'enfant en tant que tel, mais également à accompagner et soutenir la communauté et la famille d'origine.
Et à quel niveau intervient le gouvernement dans ce processus?
Tout d'abord, on revient à ce que vous disiez là tout à l'heure. Il y a un plan d'action très clair qui a été mis en place par le gouvernement pour mettre fin à toute utilisation des enfants soldats. Donc le cadre en tant que tel est déterminé par le gouvernement en collaboration avec les différents partenaires.
Yves, je vous remercie.
Un nouveau camp pour les réfugiés centrafricains en construction à Bili. Bili, c'est une localité située à 147 km de Guadeloupe dans la province de l'Équateur. Ce camp devra abriter 19 000 réfugiés qui se retrouvent actuellement le long de la frontière avec la République centrafricaine. La création de ce camp a été annoncée au cours d'une réunion de coordination des humanitaires des Nations Unies tenue mardi 10 février dernier à Mbandaka. Les détails avec Dominique Olombi.
Ce camp de Bili dans les territoires de Bosovo, le district du Nord au Bangui, indique Gert Van de Kassel, chef de bureau du HCR, devrait abriter 19 000 réfugiés centrafricains sur les 30 000 plaies enregistrées par la DGM, Direction Générale des Migrations. Ce sont de nouveaux arrivants qui ont fui l'insécurité dans leur pays et qui habitent les localités situées le long de la rivière au Bangui, frontalière de la RDC et de la RCA. Mais l'opération de relocalisation de ces réfugiés ne sera lancée que le 23 février prochain. Le gouverneur de province intérimaire, Sébastien Impeto, est attendu à Guadeloupe ce mercredi pour voir avec les autorités locales et avec les HCR des dispositions sécuritaires pour les réfugiés installés dans les territoires de Bosobolo. En attendant, des travaux d'aménagement du camp de Bili se poursuivent avec les ONG partenaires du HCR. Entre-temps, fait savoir les chefs de bureau Van de Kastel, les cliniques sanitaires mobiles de l'OMS sillonnent les localités où se trouvent les réfugiés pour identifier les malades. D'ores et déjà, l'OMS a prévu une campagne de vaccination des enfants contre la rougeole dans cette région. Les enfants des réfugiés à relocaliser seront vaccinés à leur arrivée au camp, précise le HCR. Mbandaka, Dominique Olombi Mongapangé, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Je réponds au nom de Viviane Zabaringa, journaliste de la radio Mutani FM. Ma question, c'est savoir pourquoi il y a toujours les problèmes qui bloquent sur les processus de pacification dans les territoires de Béni, alors qu'il s'est toujours observé des atrocités, des hautes factures qui sont enregistrées régulièrement.
Question posée à Goma mercredi dernier au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Suivez la réponse à partir de Goma toujours du général Jean Bayot. Il est commandant adjoint de la force de la MONUSCO.
Je pense que le premier point, c'est qu'il faut d'abord ramener la responsabilité de ces crimes à leurs auteurs. C'est-à-dire que nous avons un groupe ADF qui continue à perpétrer des crimes complètement odieux. C'est leur manière de faire, c'est leur manière, on va dire, de répondre à la pression militaire qui est exercée contre eux chaque jour davantage avec le soutien de la MONUSCO. Ils ont choisi en fait une voie terroriste. Alors, s'agissant effectivement de ce que je comprends qui est pour vous une sorte de manque d'efficacité des opérations menées contre eux, moi ce que je peux simplement témoigner, c'est qu'aujourd'hui on est vraiment passé à un autre stade au niveau de la contribution de la brigade d'intervention de tous les contingents de la MONUSCO aux côtés des FRDC. Je peux vous garantir que toutes nos forces opèrent, on va dire, main dans la main, dans la jungle, des jours et des jours, au prix de leur vie également, pour pouvoir aller au bout de ce processus qui doit nous amener à trouver les chefs, à trouver ceux qui commettent ces crimes odieux, mais aussi de les compléter. Et ça, c'est vous qui en êtes les témoins, parce que le gouverneur du Nord Kivu, des acteurs nationaux de votre pays, des acteurs religieux, la société civile, tout le monde participe dans la région de Béni à ce qui est, à mon avis, la seule réponse qui est nécessaire en complément des opérations militaires qui visent à créer un climat de confiance, mais aussi des solutions tout à fait réelles, mais aussi concrètes, mais aussi durables pour que les populations de Béni ne vivent plus ces terribles attaques dont on est aussi les témoins.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Carlos Araújo. Je suis né au Cap-Vert. Cap-Vert, c'est un petit pays à côté de l'Afrique occidentale, très près du Sénégal. J'ai fait mes études primaires et secondaires dans mon île. Le Cap-Vert a 10 îles. Mon île s'appelle San Vicente. Et après, quand j'ai terminé les études secondaires, je suis parti pour faire les études supérieures en Belgique. J'ai fait une licence en communication sociale dans l'Université catholique de Louvain. D'abord dans une ville flamande qui s'appelait Leuven. Et après, avec les problèmes linguistiques, l'université est partie à Louvain-la-Neuve, dans la partie francophone de la Belgique. Après avoir terminé les études, je suis retourné au Cap-Vert pour travailler comme journaliste. D'abord dans la radio nationale. À l'époque, c'était une radio seulement, la radio nationale. J'ai travaillé là pendant 3 ans. À la fin des 3 ans, j'ai été invité pour aller à Londres pour travailler pour la BBC. J'ai travaillé à la BBC de Londres pendant 17 ans dans différentes fonctions jusqu'à 2002. Donc il fallait travailler dans les deux langues, portugais et anglais. 17 ans à la BBC. Après 2002, j'ai décidé de changer et j'ai pris un risque. J'ai dit je vais laisser la BBC et je vais partir pour travailler pour les Nations Unies. Mon premier travail aux Nations Unies, c'était en Angola. C'était comme porte-parole de la mission de paix qu'il y avait là-bas. C'était toujours dans la période où il y avait la guerre entre le gouvernement et l'UNITA. J'ai travaillé pendant les 6 derniers mois de la mission. Après, avec la signature d'un accord de paix, la mission a été fermée. Et je suis parti au Kenya, Nairobi, pour être le coordinateur global d'un projet IRIN. IRIN Radio. IRIN Radio, c'est une agence de l'OCHA qui diffuse des informations humanitaires. Ils avaient une agence de presse. Ils ont décidé de créer un service radio. Je suis resté là-bas presque un an. Parce que, entre-temps, j'ai postulé, j'ai eu un poste à la radio des Nations Unies à New York. Je suis parti à New York où je suis resté 6 ans en travaillant pour la radio des Nations Unies. Pendant ce temps, j'ai fait un TDY. TDY, c'est quand tu fais une autre expérience dans une autre mission. On m'a demandé d'aller à Guinée-Bissau. J'ai fait 6 mois, si je ne me trompe pas. Guinée-Bissau comme porte-parole de la mission qu'il y avait là-bas. Je suis retourné à New York. Je suis resté jusqu'à 2010. Et après, je suis allé à Timor-Leste. Timor-Leste, c'était un petit pays. Je crois que c'est le pays le plus jeune du monde. Ils ont obtenu leur indépendance en 2002. Timor-Leste, c'était une ancienne colonie du Portugal. Ça se situe en Asie, très près de l'Indonésie. Donc il y a eu une grande mission des Nations Unies là-bas, avec une histoire très très traumatique, très très mouvementée. En 2010, je suis parti d'abord pour travailler à la radio des Nations Unies à Timor-Leste. Mais après un an, j'ai été promu à porte-parole. Les derniers 12 mois à Timor-Leste, c'était comme porte-parole de la mission des Nations Unies à Timor-Leste. Après, j'ai postulé et j'ai obtenu ce poste ici, directeur de Radio Capi, où je suis resté 2 ans et demi. Je suis arrivé ici au mois d'août de 2012 et je pars le 18 février, cette fois-ci pour aller à Darfour, pour travailler comme chef du département d'information publique. La mission s'appelle UNAMID. Ici, à Radio Capi, comme directeur, tout le monde connaît l'importance de Radio Capi. C'est une radio très écoutée, avec une équipe de journalistes. Je pense qu'on est presque 200 en Kinshasa, il y a dans les secteurs. Donc, on diffuse 24 heures par jour. Donc, c'est un travail immense qu'on fait tous les jours. Mon travail, c'était plus ou moins de gérer cette radio. Au niveau éditorial, j'avais délégué le travail, mais je coordonne tout de même. Au niveau des ressources humaines, de recrutement, des relations avec notre partenaire à l'époque, Fondation Hirondelle, des relations avec des partenaires extérieurs, la communication institutionnelle. Donc tout cet aspect de ce travail qui, tous les jours, c'est un travail immense. Et parfois aussi, je faisais le travail de chef de l'unité de PIO, de Public Information Office, quand le chef n'était pas là, par intérim aussi. Et aussi, le travail de porte-parole, j'ai présenté beaucoup de conférences de presse. Je pars à UNAMID maintenant, c'est une nouvelle expérience, c'est une promotion. Donc, après 2 ans et demi à Kinshasa, j'ai beaucoup aimé le Congo, Kinshasa, le travail avec l'équipe de Radio Capi. Mais dans la vie, tout a un début et une fin. Donc, c'est une opportunité pour moi de me relancer et de connaître une autre culture, un autre environnement. Mon temps libre, qu'est-ce que je fais? Je joue le football, j'aime bien lire les romans historiques, aussi les biographies, mais surtout les grands romans, les romans bien écrits. Donc quand je sors en vacances, j'achète beaucoup de bouquins que je lis quand je suis ici. Le cinéma aussi, j'aime bien le cinéma. Quand j'étais à New York, j'allais régulièrement, mais ici malheureusement, donc il n'y a pas un cinéma. Voir à la télé, c'est pas la même chose. Après ça, donc être avec des amis, particulièrement quand je suis chez moi. Non, c'est la vie d'émission, c'est une vie difficile. Parce que la plupart du temps, on est seul. Mais je me suis adapté après 12 ans de mission. À New York, c'était pas mission, donc c'était une vie presque normale. Mais à Timor, ici, en Angola, c'est toujours des vies d'émission. On s'adapte. parce qu'on sait que c'est une mission. Il faut avoir la tête pour faire d'abord le travail. Si tu as le temps pour faire d'autres choses, tant mieux. Merci aux auditeurs qui font la force de Radio Okapi. Je pense qu'on a 23 millions d'auditeurs, donc ça c'est incroyable. C'est une des radios francophones les plus écoutées au monde. Je suis fier d'avoir appartenu à Radio Okapi. Dans l'avenir, je vais accompagner ce que Radio Okapi va faire. Donc je pense que c'est une radio essentielle qui doit avoir sa place dans le panorama médiatique de la RDC.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Et deux journées à retenir dans votre agenda cette semaine. D'abord le 21 février, c'est la journée internationale de la langue maternelle. Et puis le 22 février, ce sera la journée mondiale du scoutisme. Votre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Il a été coordonné par Jean-Pierre Elali Coco. Honoré Messenga Kalala a été au reportage. Lydie Bettina à la présentation. Et Dieudonné Nyangasa Wanyangasa à la mise en onde. L'émission est à réécouter sur notre site internet radio-okapi.net. Merci de votre fidélité à la Radio de la Paix. Je vous retrouve donc avec plaisir dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre magazine. Au revoir.